Festival d'Avignon en direct avec Osmose Radio.
Osmose Radio ?
Osmose !
Osmose !
La web radio du off.
Bonjour et bienvenue sur Osmose Radio dans la couleur des planches. Aujourd'hui, je vous propose de retomber en enfance, ou peut-être pas tant que ça, avec Sur la route de Pousset, une création de Mathieu Létuvé à 14h05 au Théâtre des Lucioles. Bonjour Mathieu Létuvé.
Bonjour.
Vous êtes créateur du texte, de la mise en scène, de la scénographie et vous jouez également dans ce spectacle. Bonjour Marvin Klesch, vous êtes le danseur hip-hop de cette pièce.
Bonjour.
J'ai découvert votre travail pour ma part en 2015, où vous étiez déjà dans le off au Luciole avec Raging Bull. Je dois avouer que j'en étais pas ressortie indemne, aussi bien humainement qu'artistiquement. Aujourd'hui, Mathieu Létuvé, vous revenez avec Sur la route de Pousset, qui est inspiré du conte de Perrault, et que vous mêlez à un fait divers des années 70 qui se déroule en Californie, et qui donnera naissance à un livre, L'Ogre de L.A., où il s'agit d'un homme d'affaires qui a tué ses sept filles et qui s'identifie dans ses névroses au personnage de Pousset. Alors on est propulsé dans un conte moderne avec des personnages qui sont en quête d'identité et de liberté sur un fond d'ambiance de polar et de cinéma. Mathieu Létuvé, pardonnez-moi, mais je dois vous le dire, vous avez le même timbre de voix parfois que Guy Marchand, ce qui nous plonge vraiment dans le bain. On retrouve l'univers qu'on avait quitté il y a 2 ans, avec une scène qui est divisée entre présent et songe, une scène que vous habillez de rideaux de fil sur lesquels sont projetées des images, des vidéos et des ombres. Alors on peut vraiment dire que les formes se mélangent au rythme de la musique, qui donne vie à un talentueux danseur de hip-hop. Tantôt compagnon, tantôt silhouette monstrueuse. C'est vraiment un univers à part entière. Vous nous livrez toute une intimité avec une telle précision et un tel travail de détail qu'on est vraiment scotché. Du coup, Mathieu Létuvé, on se demande d'où vous sont venues ces idées et ces parallèles qui donnent naissance à cette pièce.
Oula, y a beaucoup de points de départ, mais c'était d'abord l'idée de retravailler à partir d'un conte. On avait monté un Pinocchio en 2013. Et puis voilà, les contes, la matière des contes m'intéresse beaucoup, et donc, mais c'était un point de départ. Voilà, j'ai tout de suite projeté un poussé adolescent sur les routes, et derrière il y avait voilà le texte de Kerouac sur la route. Donc c'est des croisements comme ça avec des références, beaucoup de films. Alors je vais pas tous les citer, mais c'est aussi voilà un voyage à travers le cinéma. Et puis, donc c'était l'idée de croiser comme ça, de travailler le genre du road movie qui m'intéressait comme ça au théâtre, et puis de croiser avec le genre du thriller, puisque ce conte est très fort et qu'il y a une dimension assez trash, hein, comme dans tous les contes, avec les sept filles de l'ogre égorgées. Donc voilà, c'était l'idée effectivement de croiser la matière du conte, de la fiction, et puis du fait divers, du réel. Tout ça transposé dans une Amérique à la fois actuelle et qui aussi à travers différentes époques, les années 70, voilà. Et donc, y a beaucoup de points de départ, beaucoup de choses qui se croisent et aussi retravailler comme sur le Raging Bull avec croiser comme ça les disciplines, le théâtre, la danse hip-hop, la musique, donc c'est une création originale, la vidéo, Antoine Aubin qui a fait les animations, voilà, c'est aussi encore une fois un travail de groupe.
Mais c'est un tel travail d'écrire à la fois un texte, de créer une scénographie, de gérer une mise en scène et de jouer en plus dans une pièce. Où est-ce que vous trouvez toutes ces inspirations ?
En fait, je m'aperçois que maintenant, j'ai besoin de ça, d'être un peu...
De faire quelque chose en totalité.
Ça fait un moment que je m'ennuyais un peu dans le théâtre un peu classique. Et donc, je voulais sortir du champ un peu traditionnel et puis trouver une forme qui m'était propre et qui voisine beaucoup avec le cinéma, quoi, qui m'a nourri, qui a nourri toute mon enfance. Et l'idée comme ça c'est venu avec le Raging Bull, mais de travailler avec un danseur hip-hop et dans cet échange-là de trouver une nouvelle forme d'expression qui voyage entre les deux, quoi. Et aussi avec toutes ces autres composantes, l'image, la musique, oui, pour moi, c'est fondamental, mais voilà, c'est pas de tout repos, puisqu'effectivement...
J'imagine, et ça se voit, il y a un travail du détail.
Responsable de tout. Et ouais.
En tout cas, vous le disiez, il y a vraiment un mélange des formes, donc du théâtre, de la vidéo, de la musique et de la danse. Donc Marvin Clèche, vous êtes le danseur de cette pièce, et vous lui offrez une dimension encore plus chimérique, encore plus fantastique, parce qu'au-delà d'une chorégraphie, vous prenez le visage de vrais personnages.
Oui, totalement. C'est complètement ça.
Comment vous avez travaillé justement pour mettre en place vos chorégraphies, vos mouvements ?
En fait, il faut savoir que je suis arrivé assez tard dans l'équipe, parce que je fais une reprise de rôle. Et à la base, c'était Frédéric Follat, en fait.
Qu'on avait vu déjà l'année dernière dans Raging Bull.
Et Lino Merion, qui était au départ sur la création.
D'accord.
Et en fait, je suis arrivé et Mathieu m'a donné un peu les détails de ce personnage que je retrouve comme une espèce d'entité en fait, qui survole la pièce, un peu le mal qui est à la fois dans le passé et dans le présent et qui lie les personnages et la danse et la vidéo. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en tant que danseur, en fait, on a l'habitude de vachement exploser sur scène ou d'arriver à des climax, des pics d'énergie. Et là, ce qui a été un peu compliqué, parce que la reprise de rôle s'est fait sur quelques jours,
en effet,
ça a été de se maîtriser, en fait, de laisser la place à la voix et de ne pas vouloir forcément prendre tout le temps le focus. Et pour l'instant, petit à petit, on arrive à trouver un bon niveau, en fait.
Et en quoi ça diffère de faire un spectacle que de danse et là de s'immiscer au cœur d'une création théâtrale ? Justement, peut-être le fait de se retenir au niveau de ses pulsions, de ne pas atteindre, comme vous le disiez, un climax ?
Ben, la différence, en tout cas à mon sens, c'est qu'en général, il y a une dimension technique qui rentre en jeu sur scène, une performance physique et technique. Et là, dans ce travail-là, c'est plus des états de corps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, il me semble que j'ai 5 ou 6 personnages et je rentre, j'ai un état de corps, je le traverse pendant 3-4 minutes, je ressors, je me change et j'ai un autre état de corps qui va avec un nouveau personnage et ainsi de suite jusqu'à la fin.
Vous changez de peau.
C'est ça, exactement.
Justement, vous en parliez tout à l'heure, Mathieu Létuvé, vous avez un véritable attrait pour l'Amérique des années 70, qu'on retrouve souvent dans vos spectacles, et du cinéma. Alors, vous disiez que ça vient de votre enfance.
Oui,
le cinéma,
sûrement. Bah, c'est la culture, mes parents sûrement, j'ai baigné là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par le cinéma américain, par... la littérature américaine et effectivement ces années-là m'ont beaucoup nourri et oui, il y a beaucoup de films là qui traversent le spectacle de références de films qui un peu de cette époque-là.
Et puis il y a un vrai travail des voix,
ouais,
qui est fait aussi bien dans le choix des comédiens,
ouais, oui,
que dans les voix off parfois à certains moments. Il y a un timbre qui est quand même très spécifique. C'est un choix vraiment de votre part?
Bah, sûrement, moi je travaille beaucoup justement à l'oreille aussi. Il se trouve que je fais aussi un peu de radio, de fiction radio, et c'est un exercice que j'aime bien. Et du coup, oui, je suis très attentif aux voix et à la justesse du jeu, la qualité d'un jeu assez cinématographique. C'est pas du théâtre, c'est un autre endroit. Donc des fois, il y a au niveau du public, il y a des gens qui sont déroutés parce que voilà, c'est sonorisé. Comme il y a de la musique, il faut que les choses soient équilibrées. On est un peu dans la lignée de Pomera aussi, qui travaille comme ça avec des micros, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Alors on est obligé de parler aussi d'Éric Guilbeault, qui s'occupe des lumières de votre spectacle. Il réussit à créer de véritables espaces à la fois intimes et temporels. Il y a toujours sur scène une sorte de pénombre un peu environnante et des moments de couleur. Je repense à un rouge à la fin où on vous voit, Marvin Clèche, on pourrait prendre une photo tellement c'est magnifique et explosif quelque part.
Oui, bah Eric, on travaille ensemble depuis un certain temps. C'est un c'est un poète de la lumière, il est très très brillant. Effectivement, lui, il envisage le travail de la lumière comme vraiment une écriture, mais qui, voilà, on essaye toujours d'être au service du récit, de ce qu'on raconte. Et là, il a trouvé à chaque fois, comme sur le Raging, où on avait effectivement aussi, on fait avec la projection vidéo, donc c'est aussi une contrainte qui aide à créer quelque chose d'assez subtil. Et avec cet espace de projection, là c'est des fils où on joue effectivement avec différents espaces, à la fois devant, derrière, et des espaces, un espace mental, un espace où on voyage comme ça dans le temps, et il est assez fin pour, créer comme ça des clairs-obscurs.
Oui, parce que c'est très précis, hein. Il n'y a jamais d'entre-deux dans votre spectacle.
Ouais. On essaye, c'est une super équipe, que ce soit les comédiens, mais vraiment tout l'ensemble. Hein, et à chaque fois, on essaye vraiment d'être au service de ce qui doit advenir dans ce qui se raconte. Quoi. Voilà, là-dessus, ils sont super tous. Ouais.
Écoutez, merci en tout cas à vous deux d'être venus et merci pour cette nouvelle claque 2 ans plus tard.
Et juste insister, c'est à partir de 10 ans, c'est vraiment tout public. C'est autant destiné aux adultes qu'aux enfants.
Il y a plusieurs lectures.
Voilà, tout à fait.
En tout cas, c'est tous les jours à 14h05 au Théâtre des Lucioles. Je vous souhaite un bon festival.
Merci.
Et pour ma part, je vous propose de rejoindre un univers un peu plus poétique avec Madeleine, l'amour secret d'Apollinaire, une pièce qui se joue avec Pierre Jacquemont et Alexandrine Serre à 15h55 au Théâtre des Deux Galeries. Alors le théâtre, c'est génial pour se divertir, mais c'est aussi bien pour se cultiver et pour partir à la rencontre d'icônes qui ont existé. Ici, il s'agit du grand poète qui a marqué vraiment son siècle, Guillaume Apollinaire, et de Madeleine Pagès, qui se sont rencontrés en 1915 dans un train en partance de Nice et qui vivent un véritable coup de foudre. Démarre alors une correspondance qui leur permettra de se connaître, de se rapprocher et de faire naître aussi un amour passionné et même de s'unir à travers leur correspondance. Ce qui est fou, c'est que derrière ces échanges épistolaires se cache la guerre. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, Apollinaire est au front. Il passe une année vraiment là-bas, une année pendant laquelle les deux personnages se voient à peine. C'est des lettres qui, au départ, sont assez pudiques, surtout celles de Madeleine Pagès, mais des lettres qui deviennent de plus en plus enflammées, charnelles et débordantes d'amour. Il y a dans ce spectacle une grande liberté dans les mots et dans les sentiments, et tout ça est saupoudré de l'immense poésie d'Apollinaire. Donc je voulais terminer justement sur quelques vers d'un poème qui s'appelle « À Madeleine ». « Je sers votre souvenir comme un corps véritable, et ce que mes mains pourraient prendre de votre beauté, ce que mes mains pourraient en prendre un jour, aura-t-il plus de réalité, car qui peut prendre la magie du printemps ?» Vous êtes sur Radio Osmose et je vous souhaite un doux festival.